Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Antoine Genton.
Salut Philippe, bonjour à toutes et à
Antoine,
tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Nagui arrête l'un des jeux qu'il présente, le retour à l'antenne de la carte au trésor sur France 3 et puis une protection policière demandée pour la journaliste d'investigation récemment menacée en Bretagne.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir.
Alors, grosse soirée hier et c'est la stagiaire qui l'emporte comme depuis 4 semaines maintenant. C'était le final de la saison 6 et c'est le meilleur score de la saison, toujours à un très haut niveau, donc 4 650 000 téléspectateurs, 19% de part d'audience sur la moyenne des deux épisodes. C'est TF1 ensuite avec son film de science-fiction Le Labyrinthe qui avait déjà été diffusé en 2018, donc c'est un score forcément pas très, pas éblouissant, quoi. 3 940 000 téléspectateurs, 16,6% de part d'audience. Puis c'est la suite de la saison 14 de Pékin Express qui se maintient très bien en nombre de téléspectateurs, 2 610 000, à peu près comme la semaine dernière, c'est 100 000 de moins, et 11,4% de part d'audience, ça c'est un petit peu moins bon. Et juste pour vous donner le score quand même de France 2, Laissez-vous guider, c'est un magazine de Stéphane Bern et Laurent Deutsch qui n'est pas souvent à l'antenne, c'était sur Napoléon, 2 190 000 téléspectateurs, 9,8% de part d'audience, c'est à peu près, c'est moins non pardon que ce qu'ils font pour les précédentes émissions.
Voilà, je souris parce qu'il y avait beaucoup d'informations Twitter là-dessus, on disait est-ce qu'on va retrouver Pierre-Jean Chalençon au milieu de sa collection Napoléon.
Oui voilà, Pierre-Jean Chalençon, c'est un grand connaisseur de Napoléon.
Grand collectionneur.
Culture Média.
Le journal des médias avec vous Antoine, à la une Nagui qui arrête l'un des jeux qu'il anime sur France 2.
Vous l'avez peut-être reconnu ce générique. Tout le monde veut prendre sa place. Je diffusais juste avant le journal de 13h. Nagui ne le présentera plus à la rentrée après 15 années passées à l'animer. Une envie de changement, dit-il au Parisien.fr ce matin. Autre raison, un désaccord de fond avec la coproductrice du jeu, Simone Harari. Un jeu qui, cela dit, va rester à l'antenne. Deux noms reviennent pour l'animer, ceux de Laurence Boccolini et de Cyril Ferraud.
Donc deux qui veulent prendre sa place. Nagui qui annonce par ailleurs l'arrivée d'un nouveau jeu sur France 2.
Oui, je ne l'avais pas fait exprès. Ouais. Bon, c'est pas grave.
Et moi, j'y suis allé. C'était pas dans le texte, je me suis lancé.
Voilà, ce nouveau jeu s'appelle le Club des Invincibles. L'idée est la suivante, que des champions de jeux télévisés affrontent des personnalités sur leur domaine de prédilection. Il sera diffusé en première partie de soirée d'ici le mois de juin, c'est ce qu'annonce Nagui.
Autre jeu qui arrive, et plus précisément, c'est la carte au trésor, ce soir sur France 3.
Un jeu qui sera animé par Cyril Ferraud, quelqu'un dont on parlait il y a quelques instants. Il en est aussi le directeur artistique. Un retour sans grand changement. On verra encore deux candidats tenter de résoudre des énigmes pour arriver jusqu'au trésor. Pas de nouvelles règles donc, mais de nouvelles consignes liées cette fois à la crise sanitaire.
Évidemment, on voit parfois dans la rue des gens avec des masques ou des gens dans les offices de tourisme par exemple, mais ça maintenant tout le monde en a l'habitude. Mais honnêtement, ça n'a absolument rien changé, si ce n'est que les candidats maintenant ont des perches qui leur permettent d'interviewer les passants en étant à distance réglementaire, en restant à bonne distance sanitaire. Et la seule chose qu'on a dû modifier dans la règle pour le respect des règles sanitaires, c'est qu'on interdit désormais aux candidats, par exemple, je vous dis une bêtise, de monter dans un camion poubelle et d'être collé au conducteur. Voilà, il faut forcément que le candidat monte à l'arrière de la voiture et en diagonale, de façon à être suffisamment à une distance raisonnable de son conducteur.
Voilà, donc ce soir, pas de camion poubelle dans le Pays Basque et le Béarn, des paysages majestueux, filmés notamment avec des hélicoptères. C'est avec ces appareils aussi que les candidats se déplacent d'une épreuve à l'autre. Absolument pas écologique, mais tellement emblématique de l'émission que Cyril Ferraud n'imagine pas faire sans.
Supprimer les hélicoptères, ça veut dire supprimer le jeu, puisque l'hélicoptère est le seul moyen de transport qui permette d'offrir des images aussi belles depuis les airs. On utilise les hélicoptères au minimum dans la carte au trésor. Dès que les drones permettent de faire de belles images, on les utilise plutôt que l'hélico. Après, des hélicoptères, il y en a dans la carte au trésor, il y en a dans le Tour de France pendant des mois. Toutes les émissions de patrimoine que vous voyez à la télé utilisent des hélicoptères, si ce n'est qu'ils ne les montrent pas. Et puis je vous rappelle que la carte au trésor compense toutes les émissions carbone, non seulement des hélicoptères, mais on compense aussi tout le bilan carbone des véhicules de production, des éventuels avions qu'on peut prendre pour se rendre avec toute l'équipe sur les moyens de tournage. Et il y a très très peu d'émissions en France qui le font.
Voilà, Cyril Ferraud, la carte au trésor, de retour sur France 3, c'est ce soir à 21h05. Trois autres numéros inédits doivent être diffusés dans les semaines qui viennent. On vous emmènera en Anjou, en Vendée et dans l'Allier.
Donc le retour de la carte au trésor est peut-être aussi celui bien plus surprenant d'une émission culte de Canal+.
Oui, c'est En aparté, émission des années 2000, où un invité, seul dans un appartement, dialoguait avec Pascal Clark, qu'on ne voyait pas à l'antenne. Elle s'est arrêtée en 2007, cette émission, faute d'audience satisfaisante. Mais près de 15 ans plus tard, elle pourrait donc renaître, c'est ce qu'affirme Télérama. C'est en tout cas l'une des pistes envisagées par Canal+, pour remplacer l'info du vrai à 19h la saison prochaine. Une piste sérieuse, d'après l'hebdomadaire. Cela dit, d'autres idées sont sur la table pour occuper cette case, diffuser un film, programmer une nouvelle émission sportive, ou bien encore passer Touche pas à mon poste de C8 sur Canal.
Toujours dans l'actualité des médias, la fin d'une des plus anciennes séries de TF1.
Après Alice Nevers et Profilage, c'est au tour de Section de Recherche d'être bientôt arrêtée, près de 15 ans après avoir commencé, information de Satellifax. Les audiences sont pourtant bonnes. Ce qui est en cause, en fait, c'est la part de marché sur la cible commerciale, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Elle n'était que de 17,7% en moyenne lors de la dernière saison qui a pris fin le mois dernier. Insuffisant pour TF1 qui devrait quand même proposer une fin à cette série. On ne sait pas encore sous quelle forme.
Une série qui s'arrête et une autre qui continue.
Mais pas sur TF1, mais sur Netflix. La chronique des Bridgerton aura une saison 3 et une saison 4. La plateforme vient de les commander alors que la saison 2 n'a même pas encore été diffusée.
Ah, ça va plaire à Hélène Manarino.
Ça va lui plaire, elle nous écoute. On en parlait depuis quelques jours. Une plainte a été déposée par Reporters sans frontières.
Une plainte contre X pour entrave concertée à la liberté d'expression notamment. Cela fait suite à l'acte de sabotage dont a été victime la journaliste Morgane Large que nous recevions avant-hier. Les boulons de l'une des roues de sa voiture avaient été desserrés et pour certains enlevés fin mars chez elle en Bretagne. Par ailleurs, RSF a demandé une protection policière pour Morgane Large qui a reçu aussi des menaces ces derniers mois à cause de ses enquêtes sur l'agro-industrie bretonne. Une demande assortie d'un numéro d'urgence que la journaliste pourrait composer en cas de danger imminent. Une demande très inhabituelle en France selon Pauline Hadès-Mével, porte-parole de Reporters sans frontières.
Cette demande de protection policière en France est quelque chose qui est rare. La gravité des menaces a justifié en fait cette demande et la demande de numéro d'urgence. Nous estimons que compte tenu des pressions répétées, des intimidations exercées à l'endroit de la journaliste et de son média depuis plusieurs mois, c'était absolument nécessaire. Il faut qu'elle soit rassurée, il faut qu'elle puisse travailler. Et il faut surtout que le harcèlement et les actes de malveillance qu'elle a subis cessent. On peut rappeler notamment que son chien était intoxiqué, qu'elle a reçu des appels nocturnes à son domicile, qu'il y a eu une mise en divagation de ses animaux ou que les locaux de sa radio ont été dégradés.
La radio associative, hein, je vous en rappelle le nom, Radio Crèze-Braise, RSF attend une réponse rapide de la part des autorités à qui elle a demandé que la protection, si elle est acceptée, ne soit pas assurée par la gendarmerie locale, et ce compte tenu des pressions et du climat tendu qui règne dans le centre Bretagne.
La Dépêche du Midi va reprendre des chaînes de télévision.
Oui, celle du groupe régional Via Occitanie qui avait été placée en redressement judiciaire fin janvier. L'offre de reprise formulée par le quotidien régional a été préférée à celle du groupe Altice BFM. Décision du tribunal de commerce de Nîmes avant-hier, la Dépêche du Midi s'est engagée à conserver 45 des 60 emplois.
Et on traverse la Manche, au Royaume-Uni, la BBC fait face à un flot historique de plaintes.
Plus de 110 000 plaintes, record battu d'après le Guardian. La BBC est accusée d'en avoir trop fait, beaucoup trop fait à la mort du prince Philippe la semaine dernière. Deux de ses chaînes ont bouleversé leur programme pour proposer un hommage au mari de la reine. Résultat, pas de feuilleton sur la BBC Two et pas de finale de Masterchef sur la BBC One. Les audiences des deux chaînes ont d'ailleurs immédiatement chuté. Quelques plaintes aussi visaient les habits des présentateurs qui auraient dû tous se vêtir de noir selon une centaine de téléspectateurs. La BBC a répondu être fière de sa couverture de l'événement et du rôle joué pendant ces moments d'importance nationale, dit-elle. On attend de voir maintenant ce que le groupe fera pour les obsèques du prince Philippe. Elles sont prévues samedi.
Et toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres évidemment dans la newsletter Média d'Europe 1. C'est gratuit. Inscription sur europe1.fr. Merci beaucoup Luce Bernard. Merci Antoine Jean.